Chers amis, on a besoin d'entendre cette parole que la femme dans la synagogue a entendue un jour. Je voudrais vous la redire, parce que ce que le Christ dit une fois, il le dit toujours. Et quand il s'adresse à une femme, il s'adresse à toutes les femmes, à tous les hommes. On va ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13. Et au verset 10. Et nous allons écouter cette parole qui a été beaucoup plus loin que les murs de la synagogue de cette époque. Cette parole a couru les campagnes, les villes, les églises, dans toutes les régions du monde. Des femmes ont entendu cette parole de Dieu libératrice. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, où, vous le savez, on n'avait pas le droit de rien faire, de travailler, même pas d'allumer une bougie. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit : Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Ces miracles ont été écrits non pas pour en faire des films, non pas pour en faire du théâtre, mais pour nous donner la foi. Ces choses ont été écrites afin que nous sachions qui est Jésus. La foi, c'est savoir qui est Jésus et c'est entrer en relation avec lui. C'est ça la foi. Et pour nous parler de la foi, les évangiles ne nous montrent pas tout un code de loi. Fais pas ci, fais pas ça. Mais les évangiles nous montrent Jésus dans le quotidien avec des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes. La relation. La foi, c'est une relation avec Jésus. La foi, c'est pas d'abord réciter des affirmations sur Dieu, des affirmations vraies, comme le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est vrai, le credo est juste, mais il ne dit pas tout. C'est un tout petit résumé de ce que le Christ et Dieu sont. La foi, ce n'est pas réciter des affirmations, c'est avoir une rencontre avec le Seigneur, personnel, de parole, de pensée, de cœur. Cette femme en est un exemple. Nous ne voyons pas la foi de cette femme parce qu'elle a fait un discours, ou parce qu'elle a fait une prière, ou parce qu'elle a fait une démarche longue pour aller vers Jésus qui était là-bas, tout au bout du pays. La foi, on va la voir ensemble pendant quelques minutes dans les détails de la rencontre avec Jésus, ce jour de samedi à la synagogue. Quelque chose qui m'effraie chez cette femme. La Bible dit qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et que Satan la tenait liée, attachée. Depuis toujours, je n'ai jamais cru que cette femme était possédée par le démon. Parce que quand les gens possédés arrivaient près de Jésus, ils se débattaient. Ils tombaient à terre. Ils criaient. Et Jésus ne leur imposait jamais les mains. Ici, la femme ne se débat pas, elle ne tombe pas. Jésus lui impose les mains. Donc il ne s'agit pas d'une possession diabolique. La Bible dit littéralement, elle avait un esprit d'infirmité. Il y a un mot que vous connaissez, qui est un mot étranger, c'est la langue des apôtres, un esprit d'asthénie. L'asthénie, oh, c'est ce que ça veut dire, la faiblesse. Elle avait un esprit de faiblesse, elle avait un cœur faible qui courbait sa vie. Vous savez, il y a des souffrances qui nous courbent la vie, des souffrances avec nos enfants, des souffrances par les échecs de la vie, sentimentaux, professionnels. Tous les troubles de l'existence nous plient, donnent de la faiblesse. Ou peut-être simplement des petites choses. Qu'est-ce qu'il y a de plus petit, de plus léger, de plus léger que le sable ? Non ? Un grain de sable, ça pèse combien ? Ça peut se mesurer, hein ? Un grain de sable. Deux grains de sable. 3 millions de grains de sable. Ça commence à faire, là, hein ? Des petites choses qui finissent par devenir insupportables. Quand les gens rencontrent dans la rue d'autres qui ne leur disent jamais bonjour, ou qui les insultent, qui les méprisent, c'est une, c'est deux fois, c'est trois fois, et à la fin, ça finit par peser très lourd sur notre cœur. Les solitudes de la vie donnent aussi de la faiblesse. Les craintes de la vie donnent de la faiblesse. Sentiment d'abandon. Un sentiment qu'on n'a plus la volonté de résister, la volonté de dire non, la volonté de vivre. La faiblesse morale, psychologique, courbe le cœur. J'ai rencontré des gens comme ça. J'ai rencontré des gens qui, physiquement, dans leur colonne vertébrale, dans leurs épaules, dans tout leur être, ils étaient courbés. La faiblesse use. La faiblesse mentale, morale, use le corps. Depuis 18 ans, c'est extraordinaire, pendant 18 ans courbé. 18 ans, ça veut dire que précisément, il y a 18 ans en arrière, elle a eu un événement qui a courbé sa vie. Vous avez peut-être connu dans votre vie un événement qui a arrêté la vie, qui a changé la vie, qui a bouleversé toute la vie et qui vous a courbé, attristé. Vieillit même. 18 ans. Mais Jésus, il voit pas seulement cette faiblesse qui la courbe, mais il voit aussi un autre mal que personne n'avait vu. Satan la tenait liée à ce mal, attachée à cette faiblesse. Satan la tenait captive. Je crois dans Satan. Je crois que c'est un ange qui s'est révolté et qui veut la ruine, la destruction de la race humaine et de tout ce qui existe. Jésus dit, c'est un meurtrier, c'est un voleur de vie, à l'affût de nos souffrances, à l'affût de nos erreurs, de nos faux pas, à l'affût de nos péchés, pour nous culpabiliser, nous tenir. C'est comme le loup qui cherche dans le troupeau la brebis un peu malade, et il la repère, il la sent. Père, délivre-nous du mal, n'est-ce pas ? Délivre-nous de ce loup ravisseur. Satan, mes amis, épie nos découragements pour nous courber davantage, pour nous attacher à nos angoisses. On dort avec, on se réveille avec, on mange avec. Il nous attache à nos angoisses par une chaîne et on ne peut pas s'en séparer. Et souvent, on va vers les médicaments parce qu'on n'en peut plus. La Bible appelle Satan l'accusateur. Ce qui veut dire que Satan nous tient dans une culpabilité. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu n'as pas fait comme ça. Il nous tient dans le doute, il nous tient dans le mépris de nous-mêmes. Parce que quand on est culpabilisé, on se méprise, on n'a plus confiance en soi, on se trouve laide, laid, mauvais. Satan la tenait liée à son infirmité, elle ne pouvait plus, c'était pour elle comme un joug, c'était une charge dans sa vie. Elle était courbée le jour et la nuit. Courbée, ça veut dire quoi? Ça veut dire repliée sur elle-même. Vous savez ce que c'est qu'une femme courbée, un homme courbé? Repliée sur elle-même. Ça veut dire tout simplement que sa vision était faussée. Elle ne voyait pas les arbres en fleurs au printemps. Elle ne voyait pas les étoiles la nuit et le ciel bleu. Elle regardait toujours en bas, jamais en haut. C'est important ça dans la vie. C'est important dans notre vie chrétienne de regarder en haut. Elle ne voyait plus le visage des autres. Elle ne voyait que la terre. Nous aussi, vous savez, nous avons parfois des charges dans la vie qui nous obligent à regarder simplement les choses passagères, les choses qui sont dérisoires. On ne pense qu'à ça. On est accaparé par notre petit territoire, notre petite vie. On en reste à nous et nos divertissements, nos intérêts. Et on ne voit plus la beauté, le sens de la vie, la direction de la vie, les dimensions magnifiques de l'existence humaine qui vont au-delà de la terre. Nous sommes tous un peu courbés, non? Vous ne trouvez pas? Nous sommes tous comme la femme courbée en deux. Cassée jusqu'à sa mort, cassée pour la vie. Et je pense que dans la synagogue, quand on la voyait rentrer, je pense qu'on était habitué à la voir. On devait dire, bon, elle a l'habitude. Un jour, c'était pendant un cours de mathématiques, je me souviens, à l'école. Il y avait dehors des ouvriers qui avaient le marteau-piqueur. Et puis quelqu'un a dit dans la classe, « Oh ben, il a l'habitude. » Vous savez ce que c'est? Il a l'habitude. Et le professeur a dit, « L'habitude? On ne s'habitue pas au mal. » On a tous été assis. Et cette femme... Peut-être qu'on était habitué à la voir cassée comme cela et on pensait qu'elle était comme ça depuis toujours. Mais on avait oublié qu'elle était une jeune fille qui sautait les fossés, qui courait après les papillons et que c'était peut-être une très belle enfant. Et là, maintenant, les gens ne pensent plus à ce qu'elle était. On regarde toujours le moment présent et on s'habitue. Les gens douloureux, parfois, deviennent transparents. On ne voit plus leur souffrance parce que ça nous gêne, ça nous rappelle notre... faiblesse, notre fragilité. Ce qui m'étonne dans cette histoire de la femme courbée en deux, c'est que elle a dû savoir que un nommé Jésus de Nazareth guérissait les malades. Non, on ne parlait que de lui, le prophète de Galilée. Elle devait savoir qu'il avait ressuscité la petite fille de Jaïrus qui avait 12 ans. Elle devait savoir que les infirmes devant lui étaient guéris. Pourquoi elle ne s'est pas approchée de Jésus? Pourquoi elle n'a pas été vers lui? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle se résignait. Peut-être qu'elle en prenait son parti. Elle disait, bon, ben, je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui auraient douté à sa place. En entendant parler des miracles aussi, de Capernaum, de Bethsaïda, de tous les prodiges de Jésus, et elle pouvait se dire, eh bien, c'est pas moi, c'est pas pour moi, je mérite rien, je suis une pécheresse, je suis une misérable. Elle devait peut-être douter d'elle-même et penser que tout ça, c'était pas pour elle. Vous savez, il s'en passe beaucoup dans la tête des gens. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que personne n'a été chercher Jésus pour elle. Comme on est allé chercher Jésus pour Lazare qui était malade, pour une petite fille qui était mourante. Personne n'a dit « Seigneur, viens, parce que ta servante, qui est depuis 18 ans est fidèle dans la synagogue, elle est douloureuse, elle est courbée, elle est cassée, viens !» Personne ne l'a fait. Vous savez ce que j'aurais fait, moi ? Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Je l'aurais prise avec quatre bons copains et je l'aurais passée par le toit. Et vous ? Comme le paralysé de Capernaum, je l'aurais descendu devant Jésus pour que Jésus la guérisse. Non ? Et vous ? Est-ce que vous l'auriez fait ? Ça, sûrement. Vous savez, on peut passer inaperçu auprès des gens pendant des années. Ne compter pour personne. Pas de coup de fil, pas de courrier, pas de bonjour, rien, on compte plus. On n'existe plus. Ça peut être comme ça. Et cette femme, personne n'est allé vers elle, personne n'a amené Jésus vers elle, elle n'est pas allée vers Jésus. C'est triste, hein ? Mais ce soir-là, elle était dans la synagogue. Et là, dans sa vallée de douleur, de solitude, elle entend Jésus qui prêche. Elle entend le Seigneur. Et voyez-vous, en l'écoutant, elle aurait pu crier comme Bartimée, là, l'aveugle, le mendiant, là, qui sent la transpiration. Elle aurait pu dire « Crie pitié de moi, Jésus !» Elle n'a rien dit. Elle aurait pu chercher à saisir son vêtement. Elle n'a rien fait. L'impression qu'elle est un peu désabusée, fataliste. Bon, arrivera ce qui arrivera. Jésus n'oublie personne. Dans la Bible, il est dit « Jésus est l'initiateur de la foi ». Ça veut dire Jésus, il dépose la foi en nous. Il crée la foi en nous. Il dépose en nous la foi pour qu'on ait avec lui une vraie relation. Il est venu apporter aux êtres humains la délivrance. Il est allé vers les oubliés, vers les sans prière, vers les sans voix, vers les asthéniques, vers ceux qui sont incapables de parler. Il est allé vers tous les êtres humains. Il éclaire tout homme sur la terre. Cette femme qui est oubliée complètement, elle n'est pas cachée au regard de Jésus. Jésus sait qu'elle est là, elle est cachée, personne ne peut la voir. Moi, devant elle, vous savez ce que je vois devant elle ? Je vois l'apôtre Pierre, le marin robuste, et elle derrière, toute petite. Je vois Jean, l'apôtre. Je vois Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, tous les apôtres, tous ces hommes, ces gaillards qui sont là en train de dire comme il parle bien le Seigneur. Et derrière eux, il y a cette femme qui est courbée, diminuée, recroquevillé. Mais Jésus la voit. Il vous voit quand personne ne vous voit. Il vous voit la nuit et le jour. Il y a des déceptions qu'on ne peut pas partager avec personne parce qu'on ne serait pas comprise, on ne serait pas compris. Il la voit dans son attachement à la synagogue. Ça veut dire dans son attachement à Dieu. Malgré qu'elle soit infirme, elle est toujours là. Dans les Vosges, je me souviens, on avait une jeune fille, hélas, qui était une personne que je ne connaissais pas, qui a connu l'évangile, qui nous a appelés. On est allé la voir à Gérardmer, et cette jeune fille, elle était cancéreuse. Elle venait avec un taxi, ambulance, à la Réunion à Saint-Dié, elle passait le col, elle venait. Parce qu'elle voulait entendre l'évangile pour sa vie et son éternité. Jésus le voit tout ça. Il voit votre déplacement aujourd'hui. Il vous a vu prendre le bus ou le métro ou la voiture. Malgré la dureté du chef de la synagogue qui pense plus à son bœuf et à son âne, car cette femme qui est infirme depuis 18 ans, cet homme dur qui ne veut pas que cette femme soit guérie. Mais Jésus voit cette femme courageuse, persévérante, confiante. La foi, c'est savoir que nous sommes vus par le Seigneur. Souvent, je me suis dit cela. Souvent, j'ai été un peu cassé moi aussi, plus que je l'ai dit. Et à chaque fois, j'ai relevé mes yeux vers le Seigneur et j'ai dit, de toutes les façons, tu me vois, tu me connais, tu me portes, tu es avec moi, alors je veux reprendre courage et je veux continuer avec toi. Dieu nous voit. C'est ça le commencement de la foi, en toutes circonstances, même dans la vallée de la mort, même dans le secret du cœur, partout, Dieu nous voit et nous suit. Ton Père qui voit dans le secret est avec toi, dit Jésus. Enfin, il va dire une parole à la femme qui va l'encourager. Il va dire, cette fille d'Abraham, bien sûr c'est une fille d'Abraham, tous les Juifs sont enfants d'Abraham. Mais quand Jésus dit ça, ce n'est pas seulement une question de naissance, de race, c'est que cette femme, elle avait la foi d'Abraham. C'est-à-dire une confiance en Dieu, quoi qu'il arrive, malgré tout. Une confiance qui persévère, comme Abraham qui a attendu 25 ans un enfant. Et cette fois-là, le Seigneur l'a vue. C'est une fille d'Abraham, dit Jésus. Il la connaît. Cette fille d'Abraham qui, dans la synagogue, a dû souvent chanter le psaume 145, « Le Seigneur soutient ceux qui tombent, il redresse ceux qui sont courbés. » Et le chef des chants dans la synagogue devait dire, « Allez mes frères, on reprend le chant, il redresse ceux qui sont courbés. » Et elle était là. Cette femme, je crois qu'elle a dû garder au fond de son cœur la porte entrouverte à Dieu. Je pense que malgré sa souffrance, elle s'est toujours dit, bon, un libérateur un jour viendra, le Messie viendra, le Fils de Dieu viendra, et il nous restaurera, il nous redonnera vie, alors je vais l'attendre. Même si je meurs avant, je l'attendrai tous les jours de ma vie. C'est une femme comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Elle attend le libérateur. Mais qui est-il ce libérateur? Il est devant toi. Il est là, plein de compassion et de douceur. Il est là, plein de patience et de charité. Pour dire aux gens de la synagogue, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Il est devant toi, madame. Je ne sais pas quel discours il a fait dans la synagogue. Je crois qu'il devait admirablement parler. J'ai toujours pensé qu'il prenait des textes de l'Ancien Testament et qu'il les remettait au jour pour les appliquer à la vie des gens en disant, « Maintenant, c'est à vous de faire quelque chose. » Je ne sais pas ce qu'il a dit dans la synagogue, mais je ne sais qu'une parole. L'Évangile n'a retenu qu'une parole. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité, de ton asthénie, de ta faiblesse. » Oh, la femme était courbée, elle ne voyait rien. Cette parole a dû traverser son cœur. Comme un coup de tonnerre, non? Ou comme un doux murmure. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette parole est un signe d'amour. Dieu s'intéresse à elle. C'est un signe d'espérance. Délivrée. C'est un appel à la foi. Dans les paroles de Jésus, il y a beaucoup. Et cette parole est adressée personnellement. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. La foi vient quand on entend une parole du Christ personnelle pour nous. Oh, vous me direz, jamais le Christ m'a parlé. J'ai jamais entendu sa voix dans ma chambre. Mais quand on lit l'Évangile, il y a des paroles portées par l'Esprit de Dieu qui traversent notre cœur. Et là, elles s'accrochent, elles s'incrustent en nous. Le Christ nous parle. Depuis des dizaines d'années que je lis l'Évangile, d'abord, c'est toujours nouveau pour moi, et deuxièmement, il m'a toujours parlé, comme il vous parle aussi. Il n'y a pas de préférence. Une parole pour elle toute seule, une parole pour sa vie, une parole qui touche sa douleur, son chagrin, son avenir. Tu es délivré. Tu es délivré. Ça veut dire c'est fait, c'est accompli, c'est réglé. Vous savez que beaucoup de choses sont accomplies aujourd'hui depuis que le Christ est mort sur la croix. Nos péchés, pardonnés quand on croit en lui. Amen. Notre vie éternelle, réglée quand on croit en lui. Notre résurrection, assurée quand on croit en lui. C'est réglé, c'est bon, point final. Amen. Tu es délivré de ton infirmité. Mais cette prisonnière de la souffrance, quel bonheur, elle qui ne pouvait pas relever les yeux vers le ciel, c'est le ciel qui descend vers elle. Elle qui ne voyait plus rien devant elle, Dieu vient à elle. Elle ne demandait rien à la femme. Elle n'a pas levé la main. Moi, Seigneur, qu'est-ce que je peux avoir ? Le Christ lui dit, comme prenant l'initiative, le Christ prend toujours l'initiative. Il nous a aimés le premier, il nous a choisi le premier. Et il dit à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est beau ? Amen, c'est beau ? Et Jésus lui a imposé les mains. J'impose aussi les mains en son nom. Jésus la prend en main. Jésus la détache de son esclavage. Il la prend en main comme un berger prend en main sa brebis tombée dans un fossé. Il l'arrache en la prenant, prenant sa tête ou ses épaules en main. Il l'arrache de cette destruction morale, physique. Il l'arrache des filets de la mort. En la prenant en main, il casse le bâton qui frappe son dos, elle est courbée en deux. C'est écrit dans l'Ancien Testament, le bâton qui frappe notre dos. On a l'impression qu'on nous frappe parfois, non ? Vous n'avez pas cette impression ? Que quelque chose nous frappe d'invisible, hein, on ne sait pas d'où ça vient. Des coups sur coups. La foi, c'est savoir que nous sommes dans les mains du Seigneur. La foi, c'est savoir que nous sommes gravés dans ses mains. À la croix. Les psaumes disaient, à l'ombre de tes ailes, mes destinées sont dans ta main. Psaume 31. Mes destinées, mon avenir est dans ta main. Amen. Parfois ça souffle, je ne sais plus à quelle branche me raccrocher, mais ma destinée est dans ta main. Il lui impose les mains. Des gens m'ont dit, on n'aime pas le mot imposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut que personne nous impose rien. Là, vous allez trop vite. Qu'on m'impose rien. Ne me stressez pas, ne me traumatisez pas. On ne veut pas qu'on nous impose. Mais imposer les mains, ça veut dire imposer la paix dans sa vie tourmentée. Imposer sa force dans sa faiblesse. Imposer la force de Dieu dans sa faiblesse. Il impose les mains, il touche. Il touche l'infirmité. Il touche son asthénie. Il touche la mort, le repli sur elle, sa solitude, il touche toute la vie. La présence de Jésus en nous fait naître la confiance. Il nous touche. Et quand Jésus a touché sa vie, je crois que cette femme, elle a dû reprendre confiance. Mais elle ne le voyait pas. Elle était toujours courbée. Sa foi, c'est qu'elle s'est laissée toucher. Jérémie disait, tu m'as saisi et je me suis laissé saisir. Parce qu'il y a des gens qui disent, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Jésus l'a saisi, elle s'est laissée saisir, c'est ça sa foi. Elle s'est laissée prendre en main. Elle a accepté la main du Christ. Elle a accepté le secours du Christ. Vous savez, après 18 ans de douleur, elle aurait pu se méfier, hein, avoir des doutes, mais qui c'est celui-là, pour qui me prend, qu'est-ce qu'il est. En 18 ans, on peut avoir dans son cœur de la révolte, de la dépression nerveuse, de l'indifférence, de la résignation. Elle est courbée, mais les mains de Jésus sont sur elle. C'est beau, hein ? Mais elle n'a pas encore vu Jésus. Hein, elle ne peut pas se redresser. Et voilà que le Seigneur, en priant pour elle, va faire descendre dans son corps et son âme, comment vous dire, un courant de vie. À l'instant, elle se redressa. Je devrais traduire cette phrase qui n'est pas très bien traduite. Elle fut redressée. Elle ne s'est pas redressée d'elle-même en disant « Bon, ben faut que j'y aille. Allez, on y va. » Non. Elle a été redressée. Par qui ? Par quoi ? Par la parole de Jésus. Tu es délivré de ton infirmité. Et la parole du Christ l'a redressée. Sa parole fait toute chose à merveille. Amen. Elle devient droite en un instant. Je pense qu'on lui aurait dit, vous allez me faire 40 séances de kiné. On verra après. Prenez du repos. Elle se redresse après 18 ans de courbature. C'est beau. Et là, elle voit des visages humains. Elle voit le chef de la synagogue qui est tout rouge. Elle voit Jésus. Cette femme nous montre ce que ça veut dire de croire. Croire, c'est relever nos yeux vers en haut, vers notre Père. Si on ne regarde plus vers Dieu, permettez-moi de vous dire que c'est l'origine de tous nos péchés. Nos péchés viennent de ce qu'on ne regarde pas Dieu. Nos pauvretés, nos errements, nos déformations psychologiques, morales, viennent de ce qu'on ne regarde plus. Le Seigneur qui crée la vie en nous quand on le regarde. En regardant en haut, on voit le chemin, on voit sa destinée, on voit où l'on va. C'est beau. Chaque fois que on ne regarde pas là-haut, qu'on réduit la vie au présent, je crois qu'on se prive d'espérance, on se prive d'avenir, on se prive de bonheur pour cette vie si courte sur la terre. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Hop, elle se redresse. Cette parole est pour chacun de vous. Elle est pour moi, mes amis. Elle est pour vous aujourd'hui. Je pense qu'on a tous besoin de se relever, non ? Vous savez, dans l'Évangile, Jésus nous a annoncé qu'il y aurait des temps très difficiles. Et aujourd'hui, dites-moi, ce n'est pas un temps difficile que nous vivons ? Beaucoup de gens disent, le journal Le Monde le dit. Le journal Le Monde. Est-ce que nous ne sommes pas en train de préparer la Troisième Guerre mondiale ? Je ne peux pas imaginer ce que ça pourrait être. J'ai peur d'avance. Mais Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, je crois que c'est bien parti, hein, ou mal parti, redressez-vous, levez vos têtes, votre délivrance approche. Je crois que c'est l'heure de relever la tête. Amen. C'est l'heure de regarder au Seigneur pour soi-même et pour le monde. Et j'aimerais vous dire pour conclure, le Christ, après ces 3 années magnifiques de guérison, de délivrance des gens où les larmes étaient séchées, où les esprits revenaient dans leur bon sens, où les cœurs reprenaient espoir, le Christ s'est courbé aussi, Il s'est courbé sous le poids de la croix. Il a porté sa croix un moment. Et cette croix, c'est le poids de nos péchés. Vous savez que le péché est considéré un poids. Dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est considéré comme une masse de plomb qui fait environ 30 000 tonnes. Quoi. Et on l'a sur les épaules. Il s'est chargé de nos souffrances, il s'est courbé, mais il s'est relevé, il s'est redressé à la résurrection. Amen. Pour nous entraîner à sa suite, pour qu'on soit un jour avec lui, assis sur son trône, dans la maison de son Père, dans la nouvelle Jérusalem. Parce que si on ne va pas là, je ne sais pas où vous allez, mais si on ne va pas là, on va nulle part. Un dernier mot. Dans un livre de la Bible qui s'appelle l'Ecclésiaste, il y a une parole avec le mot courbé. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Un arbre courbé, allez-y, vous ne pouvez pas. Un rail courbé de la SNCF, vous ne pouvez pas le redresser. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Cela veut dire tout simplement, il y a dans la vie des impossibilités. On a beau faire, on a beau dire, on a beau se taper la tête sur les murs, on ne peut pas redresser ce qui est courbé. Mais le Seigneur redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Et ce n'est pas les armes qu'il redresse, c'est nos âmes, c'est nos esprits, c'est nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Merci pour cette femme qui nous montre ton œuvre aujourd'hui dans nos esprits. Tu redresses en nous tout ce qui s'est cassé. Tu es le réparateur de la vie. Le péché qui aujourd'hui remplit le monde comme un raz-de-marée nous a tous touchés. Mais toi, tu es venu pour nous dire, tu es délivré de ton infirmité. Je te prie pour que dans cet après-midi, nos corps, nos âmes, nos vies, nos esprits, nos enfants soient dans ce mouvement d'amour de Dieu, dans ce don de vie, ce don de pardon, ce don de résurrection, de santé. Nous voulons écouter tous avec notre cœur, écouter cette parole qui a traversé le cœur d'une femme, mais qui pourrait traverser aussi notre cœur aujourd'hui, nous qui nous disons « ma vie n'évoluera plus jamais, je ne pourrai plus rien changer, je suis condamné à être comme ça ». Seigneur, fais-nous entendre cette parole. Femme, tu es délivrée, homme, tu es délivré de ton infirmité, de ton asthénie, de ton manque de force, de ta faiblesse, de la mort de ton âme. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.